tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain, où que vous soyez sur la planète, pour une nouvelle édition.
Radio-G 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Concernant le programme de la semaine, demain on va parler du bruit dans le bourg, jeudi on sera avec le CNDC et ce soir on part à Mur-et-Régnier parce qu'il va s'en passer des choses dans cette ville proche d'Angers. On va parler du festival Mur pour les transitions, ça sera du 23 au 25 mai et ça a pour but d'offrir un temps fort aux habitants et à l'agglomération autour des transitions écologiques, sociales et citoyennes. Pour en discuter avec nous, on aura en studio Philippe Martin, élu de Mur-et-Régnier, adjoint délégué à la transition écologique, à la démocratie participative et à l'écotourisme, qui est venu accompagné de Mathilde Urbanski, stagiaire en charge du festival Mur pour les transitions. Il y aura aussi la fête de la musique le 13 juin 2025 au camping des Varennes à Mur-et-Régnier. On pourrait y retrouver notamment le groupe Bosco et l'un de ses membres est présent avec nous ce soir. Ça sera Pierre qui nous en parlera. Évidemment, comme chaque mois, on est également accompagné de Emma Audichon qui viendra nous parler aussi de tout ça. Ce soir, on s'écoutera La drôle de vie de Léona Graal et on aura aussi une rediffusion de l'édito impro de Charles. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette, sur Radio G.
Et juste avant d'accueillir nos invités du soir, une petite annonce. Ce jeudi 22 mai, la salle Camille Lepage de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin projettera le film Le Chant des Vivants de Célia Allegra, suivi d'un échange avec une art-thérapeute de l'asso Limbo qui accueille des personnes migrantes en Aveyron. Et ceci étant dit, on peut tout de suite accueillir notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais donc en début d'émission, ce soir on va parler du festival Mur pour les transitions, ça arrive bientôt, ça sera du 23 au 25 mai. Et pour en parler, on est avec Philippe Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes élu à la mairie de Mur-et-Régnier et on est aussi avec Mathilde Urbanski, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes stagiaire en charge de la coordination du festival. Alors peut-être qu'avant de parler de la programmation de cette année, on peut peut-être rappeler comment est né ce festival, Philippe.
Tout à fait. Peut-être pour vous dire que ce festival est né en fait dans le cadre d'un collectif citoyen qui s'appelle Mur-et-Régnier en acte. Et en acte, ça signifie agir en citoyen pour la transition écologique et solidaire. C'est au cœur de ce collectif qu'on a mis en place ce festival qui se veut un peu emblématique en fait de la politique qu'on mène, notamment sur la commune de Mur-et-Régnier. Et qui poursuit comme objectif l'idée d'informer les citoyens, les habitants sur les enjeux, pour le dire rapidement, les grands enjeux liés aux transitions socio-écologiques.
Alors c'est la troisième édition de ce festival, comment se sont passées les deux premières ?
Alors les deux premières éditions, effectivement, ont choisi comme thème, le premier c'était de mettre en avant un mot peu connu du grand public, c'est la notion d'anthropocène. L'idée, c'est de prendre conscience que les activités humaines aujourd'hui ont un impact considérable sur les grands équilibres du système planétaire. Et ce mot anthropocène, qui signifie nouvelle ère de l'homme, c'est une façon de mieux comprendre, en fait, aujourd'hui, à quoi nous sommes confrontés lorsqu'on parle de crise bioclimatique, notamment. Et pas seulement, puisque à côté, il y a aussi une crise d'autant plus importante, c'est la crise de la biodiversité. Donc, c'est pour informer de l'ensemble de ces sujets qu'on a choisi, en fait, ce thème pour la première édition du festival. La deuxième année, on a décliné l'une des thématiques autour du cycle de l'eau. Donc là, l'idée, c'était de prendre conscience aussi, en fait, de tout ce qui était lié au déséquilibre lié au cycle de l'eau. Et puis, troisième année, là, on fait un zoom sur les transitions alimentaires.
Et alors, pourquoi ce choix de l'alimentaire? Qu'est-ce qu'on va chercher à mettre en avant pendant cette édition?
Alors, l'alimentaire se trouve au cœur, en fait, hein, des politiques de transition écologique. C'est pour ça qu'on dit que s'alimenter est un geste politique, puisque derrière l'alimentation, de la fourche à la fourchette, on pourrait dire, il y a une multitude d'entrées qui permettent de penser la question des transitions pour à la fois produire, consommer, de manière à faire en sorte que l'environnement, la nature, soit davantage respectée et qu'on puisse rester aussi en bonne santé, nous aussi, sur cette planète.
Alors, j'imagine qu'il y a une grande équipe derrière ce festival pour le construire. Mathilde, comment ça se passe, la construction d'un festival comme celui-ci? Comment on s'y prend?
Déjà, je suis donc en stage, donc je suis un peu à la coordination, mais c'est tous les services qui travaillent dessus. Je suis amenée à rencontrer tous les services, donc travailler par exemple avec le responsable de l'aménagement du territoire pour faire ensemble l'implantation. Bien sûr, le service communication, on est beaucoup sur les affiches, créer la programmation ensemble, il y a des visuels dédiés pour le festival. Chaque acteur de la municipalité en fait a son rôle à jouer, puisque lui-même va être l'invité du festival pour découvrir le travail de peut-être ses collègues, ses collaborateurs aussi. Donc on est l'équipe, en fait, c'est, on va dire, toute la municipalité, puisqu'on a aussi le centre culturel qui fait une partie de la programmation du festival.
Et alors, Philippe, est-ce qu'il y a des partenaires pour cet événement?
Alors effectivement, nous avons comme partenaire l'agglomération Angevine, ALM, qui finance en fait en partie ce festival. Mais surtout, les partenaires essentiels, ce sont l'ensemble des associations, des collectifs qui sont réunis au sein d'un village des transitions et qui sont vraiment, eux, au cœur en fait de cet événement. Et là, cette année, comme l'année dernière, on va réunir à peu près 50 associations ou collectifs qui chacun représente en fait une des dimensions des transitions, de A comme attaque, avec l'idée d'évoquer les transitions économiques, à Z comme zéro waste, pour aborder la question en fait de l'économie circulaire et de la lutte contre les déchets, par exemple.
Et est-ce que c'était un festival où vous avez remarqué qu'avant sa création, qu'il y avait une demande? C'est un festival qu'on retrouvait pas dans le coin, ce genre de festival avec ce thème?
Plus de festivals aujourd'hui développent en fait des activités en lien avec les transitions. C'est devenu un sujet incontournable. Et il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui s'impliquent dans les transitions. Après, nous, ça reste un festival qui dure 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, là, à la fin de la semaine, avec cette idée, pour retraduire un peu l'esprit, d'apprendre avec la tête, les mains et le cœur. Un festival donc où se croisent les savoirs liés à l'anthropocène. Donc on aurait pu appeler ça un festival de la fin du monde, mais on a trouvé que c'était pas très fun. Donc on a préféré parler de festival mûr pour les transitions, avec un point d'exclamation. Un festival aussi pour agir, puisqu'il est trop tard de toute façon pour être pessimiste. Et l'idée, c'est de se tourner vers l'action, d'inviter les habitants, les citoyens à aller vers des dynamiques de ville en transition. Et puis un festival aussi avec une dimension artistique, culturelle, puisque dans cette programmation, il y a aussi des événements avec des musiciens, du théâtre, différents ateliers, avec l'idée d'entrer en résonance plus émotionnelle aussi avec ce sujet, même s'il présente peut-être pour certains un côté un petit peu anxiogène. Mais l'idée, c'est de vraiment mettre en avant le côté positif en fait de toutes les actions qui peuvent être entreprises si on veut continuer à vivre dans un monde habitable et désirable.
Alors, est-ce qu'il y a un public cible qui vient à ce festival, ou c'est vraiment un festival où tout le monde vient, famille, adulte, enfant?
Alors, c'est un festival grand public, donc qui s'adresse à l'ensemble des habitants de Murénier, mais pas seulement, puisque c'est un festival qui, j'espère, rayonne aussi sur les territoires proches. On a aussi comme objectif, là c'est un autre public, de réunir aussi l'ensemble de ce que nous on appelle les transitionneurs. Donc là, c'est plus les acteurs en fait qui œuvrent déjà pour les transitions, avec l'idée de favoriser en fait l'interconnaissance entre ces acteurs pour qu'il y ait un maillage en fait opère entre eux, pour qu'on puisse se retrouver aussi pour construire un réseau en fait des transitions sur notre territoire.
On va parler de toute la programmation qu'il y aura cette année. Juste après, on reviendra avec vous Mathilde et Philippe, mais on va tout de suite passer à la drôle de vie de Léona Graal.
La drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie.
Dans certains métiers à risque, et notamment dans le secteur industriel, les consignes de sécurité sont souvent très strictes. On montre même des vidéos de sensibilisation aux salariés. Et ces petits courts-métrages sont souvent...
Bonjour Samuel, qu'est-ce que tu fais ?
Bonjour Martin, eh bien comme tu vois, je scie cette planche avant de rentrer chez moi.
Mais enfin Samuel, tu n'as pas tes gants, tu risques de te blesser.
Ouh ouh ouh, ce n'est que l'affaire de quelques secondes voyons, ça ne risque rien.
Ta ta ta, mets tes gants. Savais-tu que 95% des accidents du travail se déroulent au travail ?
Oh, tu as raison Martin. J'étais vraiment inconscient. Je vais mettre mes gants pour ne pas me blesser.
Ouais, voilà.
La sécurité est l'affaire de tous. N'oubliez pas vos équipements de protection si vous ne voulez pas finir comme Jamel Debbouze. Bien évidemment, on voit bien que ceux qui ont réalisé ces vidéos ne sont pas du tout en phase avec la réalité.
Bonjour Samuel, qu'est-ce que tu fais ?
Ça se voit pas.
Mais enfin Samuel, tu n'as pas tes gants ? Tu risques de te blesser.
Commence pas à me chauffer, sinon c'est toi que je vais blesser.
Ah, mais tu savais que 95% des accidents...
Dégage !
La sécurité est l'affaire de...
Dégage !
En général, les patrons sont souvent très à cheval sur la sécurité. Parfois même un peu trop par moment.
Allez hop, on va aller boire un petit coup.
Bonjour Samuel.
Ah patron, comment ça va?
Ben tranquille. Je passais par hasard ici là et enfin... Ouais. Je suis arrivé par hasard devant toi là et...
Et?
Enfin ça fait une heure que je t'observe totalement par hasard là...
Ah, et je vois que tu n'as pas tes bouchons d'oreilles, que tu n'as pas.
Bah, en fait, c'est que je viens juste de les enlever.
Oui, non, mais après, tu me connais. C'est pas mon genre de chercher les ennuis.
Bah oui, je sais bien, mais...
C'est pas mon genre de licencier un employé pour si peu.
Oui, bien sûr.
C'est pas mon genre de te malaxer frénétiquement les boules, hein.
Oui, je... Aïe! Je sais, aïe, j'allais juste en pause.
Ah, tu allais en pause.
Ouais.
Et donc, tu as posé tes bouchons.
Bah oui.
Mais faut pas les poser les bouchons.
Quoi?
Faut pas les poser les bouchons.
Ah bon?
Tu peux poser plein de choses. Tu peux poser des congés.
Ouais.
Tu peux poser tes clés sur ton bureau. Tu peux poser ton derrière sur mon visage.
Quoi?
Enfin bref, les bouchons, tu les poses pas.
Mais toi, tu les as pas mis tes bouchons?
Oh oui, mais ça, c'est...
Ouais, bon, on en parlera plus tard, je dois y aller.
Tu feras gaffe, ta machine est en panne.
Oh merde, pile quand j'allais partir, c'est pas vrai.
Pour riposter face à ces patrons envahissants, les travailleurs d'usine ont développé une tactique bien rodée. Ils se tournent les pouces quand le chef a le dos tourné et redeviennent des bosseurs acharnés dès que celui-ci réapparaît à l'improviste.
Attention, voilà le patron.
Bonjour messieurs.
Bonjour patron.
Attention, revenons le patron.
Rebonjour messieurs.
Rebonjour patron.
Revenons le patron.
Rebonjour, mes...
Rebonjour, Pat. Revenons le messieurs.
Bonjour, patron.
La drôle de vie.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On était avec Philippe Martin et Mathilde Urbanski pour parler du festival Mur pour les transitions, pardon. Ça sera donc du 23 au 25 mai. Quelles vont être les grandes lignes, dont les grandes lignes, on peut peut-être décrire un petit peu à quoi on va pouvoir assister, Philippe?
Alors, peut-être que je peux laisser la parole à Mathilde.
Mathilde.
Qui connaît par cœur le programme pour avoir activement contribué à l'élaborer.
Oui, alors dans ce programme, on va retrouver des choses très variées pour, dans l'idée de toucher, on espère, un maximum de monde. On va avoir une exposition, on continue tout le long du festival. On va avoir pas mal de conférences dans la journée, donc samedi après-midi, puisque le festival débute à 14h. On va avoir une table ronde pour ponctuer notre soirée. On va également retrouver des animations, des ateliers, sur inscription ou non, qui sont là pour surtout faire de la pratiquer quelque chose. Par exemple, on va voir faire du pesto d'ortie, de la linogravure. C'est des choses très pratiques avec des intervenants qui vont être là en face pour donner envie de faire quelque chose et en tout cas d'agir pour les transitions.
Et alors, quel format vous allez proposer ? Il y aura vraiment de tout ? Il y aura des ateliers, des conférences, des spectacles aussi ?
Oui, il y aura 10 spectacles. Donc on retrouve dès le samedi soir un ciné plein air qui s'appelle Mon palais est un paysage.
Le ciné plein air qui est un ciné sensible et poétique s'appelle Mon palais est un paysage et il est créé par le groupe artistique Alice qui est intervenu dans les Cléas d'Angers notamment l'année dernière.
Et je crois qu'il y aura aussi un spectacle Les yeux plus grands que le monde, oui. Il me semble.
Oui, oui. Alors du coup, je me suis permise de prendre la parole puisque du coup, c'est plus le côté service culturel qui a pu participer à et être en contact avec les équipes artistiques. Et donc le dimanche, on retrouvera à 16h la compagnie Spectabilis, qui est une compagnie angevine, et qui présentera le spectacle Les yeux plus grands que le monde. Et ce spectacle, c'est un spectacle vraiment tout public, plutôt à destination des familles, et qui met au centre la thématique de l'alimentation, donc on fait écho à la thématique générale du festival, et qui va un petit peu nous raconter toute une histoire qui est très belle, et qui est à la fois, qui nous questionne beaucoup sur comment on voit l'alimentation, les plantes, la terre et comment est-ce qu'on utilise et on consomme notre nourriture, mais tout ça dans une manière très peu moralisatrice et surtout qui nous amène à beaucoup nous évader.
Il y aura aussi une fanfare, je crois, ça s'appelle les transformateurs acoustiques, ça sera dimanche.
Oui, les transformateurs acoustiques, ils sont très rigolos, c'est une fanfare qui, donc, du coup, ils seront là dimanche deux fois, ils seront en fin de matinée et puis ensuite en milieu d'après-midi, donc à 11h et 15h. Et en fait, c'est une fanfare qui s'est vraiment posé la question de l'impact des instruments, de comment ils sont créés, comment on les fait. Et du coup, ils se sont saisis de plein de matériaux de récup pour recréer des instruments. Donc leurs instruments sont complètement inédits et sont complètement fous. Ils les ont créés eux-mêmes et donc ils vont nous faire des déambulations de percussions à la fois très rythmiques, très rythmées, qui va bien nous entraîner. C'est parfait pour l'apéro. Et puis également, ils sont vraiment très chouettes.
Tu le disais tout à l'heure, il y a des spectacles pas vraiment moralisateurs. C'est important cet aspect-là de pas devoir faire la morale. Peut-être que le message passe mieux parfois.
Eh ben, je pense que c'est même justement central en fait dans un festival comme celui-là. On est là pour ouvrir des portes pour les gens. On est là pour leur permettre de jeter un œil un peu ailleurs parfois, là où ils auraient pas pensé aller. Mais en revanche. C'est vraiment nécessaire de pas passer par quelque chose de moralisateur. Et c'est là où justement les propositions artistiques notamment, mais aussi tous les ateliers qui sont mis en place, qui sont, comme Mathilde en parlait, les ateliers linogravure, les ateliers de création de pesto d'ortie, et toutes ces choses-là pour faire de la pâte à tartiner saine, etc. C'est vraiment l'idée de dire, en fait, ça vous appartient à vous, mais on vous propose des outils, on vous les donne, mais surtout on n'est pas là pour vous dire que c'est mieux de faire comme ça que comme vous faisiez jusque là en fait. Et du coup c'est important d'ouvrir des portes et d'évoluer, et de donner des clés, de donner des outils, en tout cas de les mettre à disposition, et après les gens ils prennent ce qu'ils veulent. Et c'est là aussi où c'est intéressant que le village des transitions, il regroupe aussi toutes les dimensions des transitions, qu'elles soient économiques, sociétales, démocratiques, citoyennes, écologiques, parce que du coup on donne des clés et on donne plein de petites clés et plein de petites choses, en tout cas on les offre un peu, et c'est à chacun de s'en saisir comme il le souhaite. Et c'est là où je trouve que le festival il est intéressant. Et pour moi, c'est aussi là où nos propositions artistiques, elles sont pas en termes d'animation, mais elles sont vraiment en termes d'accompagnement du festival dans la sensibilité exacte et juste du festival. C'est-à-dire que le ciné plein air Mon palais est un paysage, c'est un travail qui a été mené pendant un an par le groupe artistique au sein de deux fermes du pays chemillois, donc qui est vraiment tout près de chez nous. Donc on est vraiment sur un circuit court là aussi. Et en fait ils sont allés filmer le quotidien de deux paysans, enfin de deux familles de paysans, et ils en ont fait des images qui sont très belles, mais qui sont pas non plus glamour, là pour glamouriser le travail paysan. On se rend compte que c'est pas un travail qui est facile, que c'est un travail qui dépend des intempéries, de la météo, que c'est un travail qui est fatigant, qui peut être pénible aussi, mais qui en même temps apporte une en tout cas c'est eux qui sont qui apporte nos denrées et qui apporte le fait qu'on puisse exister. Et du coup, je trouve que le ciné plein air qui est proposé, il l'amène vraiment à, à se projeter avec eux dans les champs et dans leur travail, dans leur ferme, avec une beauté et une justesse.
Philippe, vous êtes d'accord avec ce point de vue? C'est important de pas être trop moralisateur dans ce qu'on propose dans un festival comme celui-ci. C'est important d'éduquer plutôt, d'émerveiller des choses comme ça?
Tout à fait d'accord, notamment quand on culpabilise les personnes, ça a plutôt tendance en fait à fermer, à développer des systèmes un peu défensifs, donc ils sont sans doute un peu moins à l'écoute. L'idée c'est effectivement peut-être de tenir un discours auquel tout le monde peut s'identifier, aborder aussi les choses de façon concrète également, de voir que la transition c'est pas simplement en fait des choses lointaines, trop perchées, mais ça peut toucher vraiment le quotidien, et ça sera au cœur ça de ce qu'on va aussi mettre en avant comme discussion dans la table ronde. Le samedi en fin d'après-midi, il y a une table ronde qui va réunir 6 participants avec 4 grandes thématiques que je peux résumer rapidement. On va s'intéresser au rôle des communes dans le cadre en fait de la mise en œuvre des programmes alimentaires territoriaux, avec l'idée qu'aujourd'hui les collectivités doivent mettre en place en fait des formes de résilience en fait pour qu'on puisse se nourrir localement sur nos territoires. Il y a un autre sujet très intéressant qui va être abordé par un ingénieur agronome qui s'appelle Tanguy Martin, qui lui a rédigé un bouquin et qui va nous parler de sécurité sociale alimentaire. Alors, c'est un concept qui n'est pas encore très connu, mais très très intéressant, avec l'idée de favoriser l'accès à une santé liée à l'alimentation en mettant en place justement ce dispositif assez innovant de sécurité sociale alimentaire. Donc ça parle de démocratie alimentaire. Et puis une autre thématique autour de comment on peut soutenir concrètement le développement de l'agroécologie en fait en France, qui représente vraiment l'issue pour une agriculture paysanne respectueuse du vivant. Et puis enfin, une approche très très concrète autour de ce qu'on appelle les cuisines nourricières. Là, c'est tout un mouvement aussi national qui se propose de revisiter les technologies alimentaires pour proposer des alternatives dans les modes en fait de préparation notamment des aliments, avec l'idée de végétaliser davantage aussi notre nourriture. Donc 4 thématiques qui couvrent pas toutes les dimensions de l'alimentation durable, mais qui par leur côté très concret, je pense peuvent intéresser en fait tout le monde.
Et on découvrira tout le programme certainement sur le site internet de la ville de Mury-Régnier.
Oui, exactement. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la rubrique Agenda sur l'onglet Festival Mur pour les transitions. Aussi bien tout le programme de tout le week-end qui va du coup du vendredi au dimanche. Et puis, il faut savoir aussi que toutes les propositions sont gratuites. On a vraiment cette décision d'avoir un festival qui est très ouvert, accessible à tous. Donc un public aussi bien... plutôt de connaisseurs que de badauds, de passants, de gens qui sont juste venus jeter un œil, et accessible aussi aux familles et aux personnes en situation de handicap.
Et une deuxième date qui va arriver prochainement, ça sera le 13 juin, la fête de la musique au camping des Varennes. Et on va se faire une petite avant-première, on va écouter une musique du groupe Bosco qui passera justement pendant cette fête de la musique. On écoutait A Nice Two Step du groupe Bosco sur le 101.5 FM. Et on est ce soir avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Nolwenn.
Vous faites partie donc du groupe Bosco et vous serez à la fête de la musique le 13 juin au camping des Varennes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire votre... On a pu avoir un petit aperçu de votre style musical, mais si vous deviez le définir...
Oui, c'est faisable. on joue de la musique, on reprend des vieux morceaux du folklore séculaire cajun. C'est une communauté francophone au sud de la Louisiane, dans le golfe du Mexique, aux États-Unis. Et c'est une vieille musique folklorique, comme chez nous il y a la musique bretonne ou charentaise ou catalane. Et c'est un truc qui me tenait à cœur de jouer depuis longtemps. Et puis j'ai trouvé des musiciens pour m'accompagner. Alors on le joue pas de la manière vraiment traditionnelle. Moi j'écoute vachement de rock psychédélique et garage, et du coup voilà, je me suis servi de ça comme véhicule, et tous les quatre on joue ça comme ça.
Alors on peut peut-être parler des autres musiciens, quels instruments jouent-ils et combien vous êtes au total?
Ouais, on est quatre. Il y a Marc à la batterie, il y a Jules à l'accordéon, Félix à la guitare et à l'harmonica un peu, et puis moi-même au chant et à la basse.
Et alors, comment vous êtes rencontrés? Comment s'est construit votre groupe?
Comment on s'est rencontrés? Marc, je le connais depuis longtemps parce que je joue de la musique avec lui depuis un certain nombre d'années. Et puis Félix, je l'ai rencontré, j'organisais un festival à Chalon qui s'appelle la Fête des Quais. Et comme il jouait là-bas, je l'ai chopé à la sortie de la scène pour lui exposer mon idée, mes envies. Et il m'a dit, bah ouais, ok, on y va. Puis après, voilà, on a appelé Jules. Ça se fait vraiment comme ça, quoi. Ouais.
Emma, c'était une bonne idée de programmer le groupe Bosco pour les fêtes de la musique. Pourquoi ce choix? C'est une musique qui convient très bien à l'été, à la fête de la musique.
Eh bah oui, bien sûr. En fait, c'est justement ce dont on parlait pendant la pause musicale, là, hors antenne. On se disait que c'était vraiment une musique qui rappelait... qui rappelait l'été, qui donnait envie d'aller danser sur un parquet avec des chaussures qui font clac clac, et je trouve que pour moi c'est une belle image de ce que peut être la musique, de ce qu'elle peut provoquer en nous en termes d'émotions, de sensations, et du fait que la musique, la danse, la fête, c'est un tout. Et je trouve que justement la fête de la musique, c'est l'occasion d'expérimenter et de vivre. C'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour vivre la musique comme une fête. Donc, Bosco, ça marche plutôt bien dans ce genre-là. En tout cas, je crois que ça nous a bien tapé dans l'œil pour cette soirée-là.
Alors, il y aura aussi, justement, pendant cette soirée-là, une scène ouverte pilotée par l'association Érimuroise Agis.
Oui, c'est une association qui s'appelle Agis, qui signifie Au Germoir des Initiatives Solidaires. Et du coup, l'association organise une scène ouverte, donc qui sera accessible dès 18h30 sur inscription. Et donc, n'importe quel habitant, mais également hors commune, pourra venir participer à cette scène ouverte, pourra venir prendre le micro, son instrument, et puis nous faire découvrir son talent, que ce soit en solo, en groupe. L'idée, c'est vraiment d'offrir la possibilité à chacun de pouvoir nous émerveiller pendant cette fête de la musique.
Je précise à propos de Agi. Agi gère aussi, en fait, sur notre commune, un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu des transitions socio-écologiques. Et c'est un partenaire important pour nous. Et c'est avec eux qu'on a aussi construit ce festival.
On pourra donc peut-être les retrouver aussi au festival. Alors, on aura aussi, il me semble, un ensemble amateur guitare et chant de l'association le Quartet.
Le Quartet, c'est ça.
Avec l'école de musique aussi, je crois.
Et donc du coup, en fait, le Quartet, c'est l'école de musique qui s'est unifiée à... Donc il y a quatre écoles de musique qui se sont regroupées ensemble, et donc qui forment une méga école de musique un peu, et de musique et de danse. Et donc le Quartet a beaucoup, beaucoup d'inscrits et a également beaucoup de projets. Et toujours dans cette envie de faire de la musique un endroit où on peut aussi de pratiques amateurs et aussi de faire découvrir, d'oser prendre la scène facilement. On a proposé au quartet s'ils avaient envie d'avoir un temps dédié à un de leurs groupes, en tout cas un de leurs ensembles plutôt émergents avec des jeunes et de se dire que c'est aussi un peu un petit tremplin, en tout cas sans être un tremplin de reconnaissance internationale, mais au moins un tremplin pour pouvoir jouer dans le coin. Et donc on aura un ensemble de guitares et de voix qui est dirigé par Jean-François Désiré et Myriam Delcroix, que je remercie tout particulièrement de nous accompagner cette année encore, puisque l'année dernière ils avaient participé à Mur pour les transitions, comme quoi on n'arrête pas de faire des ponts entre les deux. Et donc du coup là ils viendront nous présenter leurs élèves viendront présenter leur travail et ils sont nombreux et en général ça te donne plutôt envie de danser aussi.
En tout cas, on a très hâte d'y être. Rendez-vous le 13 juin au camping des Varennes. On rappellera toutes ces infos pratiques en fin d'émission. Mais d'abord, on se repasse un édito en pro avec Charles.
Salut tout le monde, salut les improvisés angevins, salut les improvisés angevines, salut le quai. Bonjour. Donc cette semaine, j'avais envie de vous parler d'arbitrage. Je voulais vous parler du rôle de l'arbitre dans un match d'impro, de sa job au sens large. Personnellement, j'ai beaucoup joué, mais j'ai très peu arbitré. Du moins, pas assez pour avoir une vision bien définie de ce que ça doit être un arbitre en impro. Je me suis donc entretenu avec le comédien Nourel Yakin-Louise, qui, en plus d'être chargé de mission culturelle improvisation pour la compagnie Déclic Théâtre de Trappes, dans les Yvelines, est accessoirement l'arbitre en chef du trophée national collégial soutenu par la Fondation Culture et Diversité. Autant dire, les copains, que le gars y connaît sa came. Donc, Nourel Yakin est donc la personne parfaite pour parler du personnage de l'impro.
Moi, je dis que l'arbitre, c'est pas un personnage, c'est une posture. C'est-à-dire que t'as pas besoin de venir en étant quelqu'un d'autre pour arbitrer. Sur ma nominette, il y a écrit Nourel Yakin, et quand je rentre dans la patinoire, je ne suis pas celui qui prend un personnage. C'est les joueurs qui prennent des personnages et qui effacent leur nominette pour devenir quelqu'un d'autre. Le joueur, il redevient joueur sur le banc. Il redevient qui il est, en fait. Après, et c'est là où je rejoins peut-être Papy, c'est que le fait d'être sur scène, et là, je suis d'accord, ça modifie ton attitude par la force des choses. Tu as une teinte, mais c'est pas un personnage à proprement dit, parce que celui qui siffle les fautes, c'est l'arbitre Nourel Yakin.
Waouh! Donc, déjà, premier point hyper important, j'espère que vous avez pris des notes. L'arbitre est une posture, pas un rôle, pas un personnage, une posture. Pour comprendre la nuance, pensez à un prof. Ton prof devant sa classe, il y a de la prestance, il envoie du lourd, il y a de l'autorité. Par contre, l'été, si tu le retrouves au PMU de Quimper à hurler sur Moonshadow du Petit Plessis un verre de rosé qui tâche à la main, c'est pas du tout la même game. C'est la même personne, mais avec une posture différente. Et je pense que vous avez des exemples dans votre tête présentement. Pour en revenir à l'arbitrage et à notre ami Nourel Yakin, je lui ai demandé de me décrire sa vision du rôle de l'arbitre.
Je pense que l'arbitre, il est central, physiquement central. C'est le seul qui a le pouvoir de communication avec chacun des intervenants sur le match. Il peut parler aux joueurs, il peut s'adresser au coach directement s'il a besoin, parler au MC, à la musique, et il peut parler à ses assistants. Déjà, ça me paraît intéressant parce qu'en vrai, ça veut dire qu'il est les chefs d'orchestre. Et je pense que l'arbitre, de toute façon, son rôle, c'est de s'assurer de l'équité pour chacun dans le jeu. Alors autant pour les joueurs, mais aussi de l'équité de la prise de parole du MC, du temps de musique du musicien. Tout ça, c'est lui qui va ordonner la place de chacun dans la patinoire. Quand c'est un match où je sais que les talents sont là et que ça va tourner, je laisse moins de place aux musiciens. Si je sais que c'est des enfants, par exemple, qui vont avoir besoin de soutien parce qu'ils savent pas mettre leur corps en route et tout ça, bah je sais que la musique peut être un appui. C'est lui qui va pouvoir dire aussi à son MC, bah voilà, la salle est un peu endormie, peut-être que là c'est le moment de l'échauffer, attention, c'est un public d'enfants, peut-être qu'il faut retenir les cadences. Ben, vraiment, je pense que l'arbitre en fait est le seul qui permet en fait au spectacle donner la bonne ampleur.
Ça fait du bien à entendre, parce que trop souvent on limite le rôle arbitral à la caricature du méchant qui se limite à donner les thèmes et qui distribue des pénalités un peu selon son bon vouloir. Mais selon la vision de l'arbitre Nourel Yakin, l'implication et le sérieux de l'arbitre est primordial.
C'est là où c'est très difficile. C'est que l'arbitre, en fait, il se doit de porter le match et de porter, en fait, la garantie que la justice du sport soit faite. Dans les dérives qu'il y a eu, c'est qu'on a enlevé, en fait, l'aspect sportif au match, l'aspect compétitif. Moi, je suis de ceux qui pensent que le match est avant tout un spectacle. Mais c'est un spectacle qui est basé sur la compétition. Si on regarde le sport, en fait, sur des terrains, on aime voir, au-delà de voir notre équipe gagner, on aime voir les beaux gestes, les beaux joueurs, les belles joueuses qui vont dribbler, qui vont avoir un geste extraordinaire pour marquer un but. Et en fait, tout ça, ça ne se fait que sous l'autorité des règles qui sont imposées. Et en fait, le match, il est intéressant parce qu'en fait, toutes les productions qui vont être faites par les joueurs et par les joueuses, en fait, ça va être fait dans un cadre, si on respecte bien, qui est safe. Donc l'arbitre, il peut pas arriver là et dire tout ce qu'on fait, vous inquiétez pas, c'est pour de faux, il faut du plaisir et du jeu, mais en même temps, il doit garantir l'aspect sérieux de la pratique.
Ici, Nourella Yakin-Louise en trouve une boîte de Pandore. La compétition en match d'impro. Ouais. Là, on va la refermer hein, pour l'instant et on se garde ce débat-là pour une prochaine capsule. Aussi, en parlant de règles, Nourella Yakin prononce un gros mot en impro. Les improvisateurs n'aiment pas les contraintes. Ce sont des punks théâtraux. Donc, avec le temps, on les a un peu tronqués, allégés, contournés. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, certains disent que le match d'impro est violent, que c'est que du punch peu théâtralisé. Avec la vision de l'arbitrage de Nourella Yakin, arbitre en chef du Trophée national collégial culture et diversité, juste pour le rappeler, le gars connaît sa cam, on a un début de solution. On a un bon garde-fou, solide et crédible. Ça sécurise les joueurs et les joueuses, qu'importe le niveau. Et ça permet aux improvisateurs d'aller plus loin et d'avancer plus vite. Quand on a confiance au filet, on peut se permettre de plus grandes voltiges.
Et c'est déjà la fin pour Topette. On était donc avec le festival Mur pour les transitions. On en parlait donc avec Philippe Martin, pardon, élu à la mairie de Mur-et-Régnier et Mathilde Urbanski. On peut peut-être rappeler les dates. Est-ce qu'il y a des horaires pour le festival? Quand est-ce qu'il va être accessible?
Alors, le festival se déroule le 23, 24 et 25 mai 2025, donc ce week-end. Le samedi, on est ouvert de 14h jusqu'à tard la nuit, puisqu'on termine sur un DJ set. Et le dimanche, on est ouvert de 9h à 18h avec en parallèle le vide-grenier.
Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pratiques? Donc, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure sur le site internet de la ville de Mur-et-Régnier.
Oui, dans la rubrique Agenda, sur l'onglet Festival Mur pour les transitions, vous y trouverez tout le détail de la programmation et également tous les liens si jamais vous avez envie d'aller chercher un peu plus.
Eh bien, c'est noté, on mettra le lien dans le podcast sur le site internet de Radio G. Pierre, votre groupe Bosco, où est-ce qu'on peut vous écouter? Peut-être sur les plateformes de streaming?
Ouais, tout à fait, sur toutes les plateformes. On a 3 morceaux qui sont sortis là, en janvier, là, chez Maola Records,
et on
qui est un
aussi,
label angevin.
On pourra aussi évidemment vous retrouver du coup à la fête de la musique.
Le 13 juin à Mur. Ouais, ouais.
Et Emma, pardon, est-ce qu'il y aura d'autres dates qui vont arriver prochainement avec le CCJC?
Alors oui, là on va commencer, une fois que le festival sera passé, à mettre en place les escapades estivales. Donc on va avoir plein de propositions qui vont arriver. La programmation va sortir très prochainement, normalement dans la semaine. En tout cas, je croise les doigts et je vous en parlerai plus amplement lors de la prochaine émission. Pour l'instant, on a très très hâte d'aller jusqu'à la fête de la musique et de pouvoir danser sur Bosco.
Moi, j'en profite pour vous communiquer également une autre date, un événement qui va avoir lieu sur la commune le samedi 28 juin de 16h à 22h. C'est organisé par AGI, le tiers-lieu dont on a parlé tout à l'heure, organisé par une association qui s'appelle Mur pour la transition et également le mouvement rural des jeunesses chrétiennes. On organise avec ses partenaires un événement autour de l'engagement citoyen. Ça va s'appeler Réenchanter l'engagement pour mieux vivre ensemble. Et à cette occasion, on a 2 invités, le maire de La Montagne, monsieur Fabien Gracia, et puis une collègue aussi de Fréquence Commune qui s'appelle Cléa Fache, qui vient nous parler de l'engagement, des concertations citoyennes, comment on peut favoriser l'implication des citoyens dans la cité. Et aussi, on va mettre en avant, à travers la projection d'un film qui s'appelle La République de Saillant, l'histoire du municipalisme. Et Cléa Fache est une spécialiste, en fait, des courants municipalistes en France.
Merci beaucoup à tous d'être passés dans Topette. Nous, demain, on sera donc avec le Festival du Bruit dans le Bourg. Jeudi, on sera avec le CNDC. Et moi, j'en profite toujours pour vous rappeler que ce jeudi 22 mai, la salle Camille Lepage de la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin projettera le film Le Chant des Vivants de Cécile Allegra. Tout ça sera suivi d'un temps d'échange avec une art-thérapeute de l'association Limbo qui accueille des personnes migrantes en Aveyron. Et nous, pour ce soir, on va se quitter avec un nouvel épisode des Légendes Imaginaires de l'Anjou. Et moi, je vous dis à demain et topette.
Bienvenue dans notre exploration des mythes et légendes de l'Anjou. Nous allons nous aventurer dans les profondeurs de la forêt de Chandelay à la découverte de la sombre légende du chêne des pendus. La forêt de Chandelay, située entre Baugé et Noyant dans le nord-est de l'Anjou, est un lieu chargé d'histoire et de mystère. Couvrant plus de 300 hectares, cette forêt domaniale abrite en son cœur un arbre particulier, objet de nombreuses légendes et superstitions, le chêne des pendus. Notre histoire commence au Moyen-Âge, une époque où la forêt de Chandelay était le théâtre de nombreuses exécutions. En effet, à cette période, la justice seigneuriale avait pour coutume de pendre les condamnés aux branches des grands arbres à la vue de tous pour servir d'exemple. Parmi ces arbres, un chêne majestueux se distinguait par sa taille impressionnante et ses branches robustes, parfaites pour les sinistres besognes des bourreaux. C'est ainsi que cet arbre devint tristement célèbre sous le nom de chêne des pendus. La légende raconte que les âmes des condamnés, incapables de trouver le repos, restèrent attachées à cet arbre. On dit que par les nuits sans lune, on peut encore entendre leurs gémissements portés par le vent qui souffle dans les branches. Mais l'histoire la plus terrifiante associée à cet arbre est celui du pendeur fou. Selon la légende, au XVIe siècle, un bourreau nommé Gilles Mauclair officiait dans la région. Cet homme était connu pour prendre un plaisir malsain dans l'exécution de sa fonction, allant jusqu'à inventer des supplices supplémentaires pour ses victimes. Un jour, alors qu'il devait exécuter une jeune femme accusée de sorcellerie, Gilles Mauclair fut frappé par sa beauté. Il lui proposa un marché. Si elle acceptait de l'épouser, il la laisserait vivre. La jeune femme, terrifiée, accepta. Mais le soir des noces, alors que le bourreau s'était endormi, la jeune femme s'enfuit dans la forêt. Foudrage, Gilles Mauclair se lança à sa poursuite. Il la rattrapa près du chêne des pendus et, dans un accès de folie, la pendit aux branches de l'arbre maudit. À partir de ce jour, Gilles Mauclair perdit la raison. Il se mit à errer dans la forêt, capturant et pendant quiconque avait le malheur de croiser son chemin. Les villageois terrifiés n'osaient plus s'aventurer dans les bois. Ce n'est que lorsque le seigneur local envoya une troupe armée que le pendeur fou fut finalement capturé. Il fut jugé et condamné à être pendu à son tour au chêne des pendus, rejoignant ainsi ses victimes dans la mort. Depuis lors, on raconte que l'esprit tourmenté de Gilles Mauclair hante toujours la forêt de Chandelay. Les habitants de la région affirment que par les nids d'orage, on peut apercevoir une silhouette sombre rôdant autour des chênes des pendus à la recherche de nouvelles victimes. Cette histoire du chêne des pendus nous rappelle la brutalité de la justice médiévale et la façon dont les communautés géraient la mémoire de ces événements traumatisants. La légende servait à la fois d'avertissement moral et de moyen de donner du sens à des pratiques judiciaires aujourd'hui considérées comme barbares. Elle témoigne aussi de la place importante qu'occupaient les arbres dans l'imaginaire de nos ancêtres. Considérés comme des êtres vivants dotés de pouvoirs mystiques, les arbres étaient souvent au centre de croyances et de légendes. Aujourd'hui, le chêne des pendus de la forêt de Chandelay est devenu une attraction touristique. Des visites guidées sont organisées pour raconter son histoire aux curieux. Certains affirment même avoir capturé des orbes mystérieuses sur leurs photographies, alimentant les théories sur la présence de fantômes. Que l'on croit ou non aux légendes, le chêne des pendus reste un témoin silencieux de l'histoire mouvementée de notre région. Il nous rappelle que chaque forêt, chaque arbre, a une histoire à raconter, pour peu qu'on prenne le temps de l'écouter. Alors, si vous vous promenez un jour dans la forêt de Chandelay, que vous tombez sur un chêne particulièrement imposant, prenez un moment pour réfléchir à son histoire. Mais peut-être vaut-il mieux ne pas s'y attarder trop longtemps, une fois la nuit tombée. On ne sait pas qui ou quoi pourrait encore rôder dans les ombres. Voilà qui conclut notre chronique sur les légendes angevines. J'espère que cette sombre histoire du chêne dépendu vous a captivé et vous donnera peut-être un frisson la prochaine fois que vous vous promènerez en forêt. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des mythes et légendes de l'Anjou.
Savourez nos différences.